Christ notre Seigneur. Amen.
Amen.
Nous serons assez brefs ce soir. Néanmoins, ce sera la parole de Dieu. Nous lirons ce soir dans 2 Rois, chapitre 2. Nous sommes ici en présence de deux types, un le type de Christ, l'autre le type de l'Église. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. » Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On nous asseoir. Qu'est-ce que demande ce que tu veux que je fasse pour toi, dit Élie à Élisée. Élisée ne demande pas l'or ni l'argent. Quand Dieu dit demandez ce que vous voulez, Dieu s'adresse à votre homme intérieur, à votre âme, ce dont votre âme a besoin. Ce dont votre âme désire le plus, il faut maintenant, comme il est dit dans Romains 8, il faut savoir demander ce qui est convenable. Et il demande quelque chose de convenable. Il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Si Élie est un type de Christ, l'esprit qui est demandé, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Comme dit Paul dans Romains 8, l'esprit qui était en Christ. N'est-ce pas? Et Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est une chose difficile. Ce sera le sujet ce soir, une chose difficile. Il demande en fait le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 11, verset 11, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils ? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Autrement dit, si Dieu descend ici ce soir, Jésus-Christ vient ici ce soir, vous vous dressez devant lui et il vous demande qu'est-ce que vous voulez, vous êtes en droit de lui demander l'Esprit qui est en toi.
Amen.
Amen. Ça doit être notre désir le plus profond. L'Esprit qui est en lui, si je peux l'avoir. Maintenant, dit comme ça, comme nous venons de le lire dans Luc chapitre 11, cela semble être facile. Et lu dans Actes 2, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous aurez pour le pardon de vos péchés, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Ça semble être quelque chose de facile. Mais Élisée demande ici qu'il y ait sur moi, je te prie. Donc il demande qu'il y ait une double portion de ton esprit. Et Élie lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Amen. Sachez que Dieu ne donne pas son esprit à l'emporte-pièce. Il donne cela, c'est une chose difficile. On le lui dit. Seulement, si on lit la suite, c'est peut-être difficile, mais il y a un mais. Et ce mais-là change la difficulté. Oui. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ça signifie que garder le regard constamment sur Élie pendant leur marche n'est pas une chose facile. Et c'est ce que Dieu demande. C'est une chose difficile que de pouvoir garder son regard fixé sur lui tout au long de la marche. C'est cela la condition pour avoir l'esprit qu'il devait avoir. Élie lui dit carrément, il dit, sinon, cela n'arrivera pas. Tu ne l'auras pas. Et pour comprendre ce qui rend la chose difficile, pourquoi est-ce difficile d'avoir les yeux, de voir Élie pendant qu'il sera enlevé? Qu'est-ce qui rend cela difficile? Pour le comprendre, il faut lire les versets avant. On va lire le premier verset du premier 7. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, donc c'est la période où Élie doit être enlevé, Élie partait, tout un cheminement, de Gilgal avec Élisée. J'ai voulu regarder l'historique de Gilgal. J'ai dit, mais si je regarde Gilgal et puis je regarde les autres étapes, s'il faut en parler, on s'en sera là peut-être encore jusqu'à 22 heures. Mais, comme on dit toujours, on n'est pas pressé, n'est-ce pas? Mais gardons cela un peu comme cela en généralité. Si Dieu veut qu'on continue avec Gilgal, on continuera avec Gilgal la fois prochaine. Il quitte un endroit, Gilgal, et il est accompagné d'Élisée. Élisée le suit, comme dit le cantique, « Où tu iras, je veux te suivre. » Amen. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Ça devait être assez loin. Est-ce que Élisée est prêt à accomplir la distance? Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Alors, quand ils arrivent à Bethel, ils arrivent, regarde, bon, ici, à Bethel, c'est chouette, il y a une assemblée. y a des fils de prophètes qui sont là, qui sont bien enseignés, qui sont même au courant qu'Élie va être enlevé ce jour-là. Qui vous crient « Yes, preach it ». C'est ça, c'est la vérité. Amen. Donc, il trouve des frères qui croient quasiment comme lui. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, ils ne vont pas vers Élie, hein, les fils de prophètes. Ils vont vers Élisée. Je vais vous montrer, vous allez voir, Élisée et les fils de prophètes étaient souvent en relation. Ils communiaient avec eux. On le lira par après. Ils disent à Élisée, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Ils savaient ça. Ils étaient au courant. Et il répondit, « Je le sais aussi. Ben, si vous ne venez pas, taisez-vous. » S'ils étaient intéressés, ils auraient dit, « L'Éternel enlève ton maître de dessus de toi aujourd'hui, nous venons avec vous. » Mais non, ils restent là. Alors, Élisée dit, « Ne m'en dites pas davantage, taisez-vous. » Élie lui dit, « Eh ben, tu as trouvé des frères ici, il y a une assemblée ici, qui croient au message ici. » Eh bien, reste ici, je te prie, car moi maintenant, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Amen. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Là aussi, il y avait une assemblée. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» La même question formulée de la même manière. Ce sont des assemblées sœurs qui se connaissent. Amen. Elles ont reçu le même message. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, ben, tu as des frères ici. Peut-être ceux-ci chantent peut-être mieux que ceux de Bethel. Tu peux rester ici. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Maintenant, je dois aller au Jourdain. Je ne sais pas si là-bas, il y a une assemblée. Il répondit, mon problème, ce n'est pas l'assemblée. Mon problème, c'est toi. Le problème, c'est Christ. Nous ne suivons pas une assemblée. Nous suivons Christ. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il ne change pas. Le chemin peut être rocailleux. Le chemin peut être sablonneux. Il peut être grimpant, il peut être descendant, ça peut être au travers des vallées pour arriver à Jéricho. Je ne te quitterai pas. Dans la joie, dans la tristesse, dans les soucis, dans les difficultés, je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Et poursuivirent tous deux leur chemin. La marche continue. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent. Ils étaient là aussi. Et s'arrêtèrent. Pour eux, le Jourdain, c'est pas ça. Ils s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ouais. Quand est-ce que Dieu, l'Éternel, va enlever Élie? Ça, on ne sait pas. Mais il va le faire aujourd'hui. À quel moment aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être au moment où il est à Bethel. Non, il ne l'enlève pas à Bethel. Peut-être au moment où on est à Jéricho. Ah non, il ne l'enlève pas à Jéricho. Ils ne savent pas. Mais il va l'enlever aujourd'hui. Mais maintenant, ils continuent leur chemin. Les fils de prophètes qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces frères? Tout au long du chemin, ils ont essayé de distraire Élisée. Tout au long du chemin, le diable, au travers de frères et sœurs de l'assemblée, au travers de nous-mêmes, les prédicateurs, tout ce que vous voulez, le diable essayera de vous distraire. Il vous distraira, il essaiera de vous distraire avec la parole de Dieu. Tu vois ce qui se passe en Iran? C'est l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Tais-toi. Laisse-moi continuer. Dites amen à ça. Et je vous disais, c'était des croyants du message. Élisée, il communiait avec eux, 2 Rois 4. C'était des croyants, hein, de bons croyants. Regardez ici. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes, donc une femme d'entre les fils des prophètes, n'est-ce pas, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Ce sont des croyants. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Tout ce que je voulais montrer ici, les fils de prophètes sont des croyants. Et ils connaissaient très bien Élisée. Ils connaissaient très bien le prophète de l'âge. Enfin, celui qui allait remplacer Élie. Au verset 38, nous lisons. Élisée revint à Gilgal. Entre-temps, il a reçu ce qu'il a demandé. Hein. Cette double portion de l'esprit qui était en Élie. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot, on va faire une agape, et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Ah. Et il y cueillit des coloquintes sauvages. C'est la mort. Plein son vêtement. Il était tout heureux. C'était des coloquintes. Il nous a dit ici, des concombres. Ce sont des concombres. On vante les vertus du des concombres, n'est-ce pas, hein? D'ailleurs, en quittant l'Égypte, les Juifs se sont souvenus des concombres qu'ils ont mangés en Égypte. Scofield nous dit que ce sont des concombres sauvages, les coloquintes. Plein son vêtement, on va faire une soupe aux concombres. Ça existe, vous savez. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Mais il a eu l'inspiration. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot. » Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. C'étaient des fils de prophètes. Faites attention. Faisons confiance au prophète de l'âge, dans l'esprit qui était en lui, que lorsque l'esprit le conduisait. Ça va? Le reste, c'est Élie qu'on regarde. Et Élie dit, et Élisée, lorsque ils ont été séparés, ils ont continué la marche. quand ils ont continué. Ils ont marché ensemble. On revient dans 2 Rois 2. On voit qu'ils continuent la marche. Nous sommes au verset 11. Comme ils continuent à marcher en parlant, voici maintenant un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Quand il faut combattre, on va chercher pour aller au combat. Le char, c'était le prophète. La cavalerie, pour combattre, c'était le prophète. À lui tout seul, il était le char d'Israël et sa cavalerie. En tant que type de Christ, Christ lui-même, il est notre char et notre cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il a eu le manteau et il prend le manteau, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux. « Ce que je fais, vous le ferez aussi. » Qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a plein de choses qui vous distraient pendant que vous allez vers l'enlèvement. Pendant que vous allez vers ce moment de rendez-vous, les courses vous distraient. Parfois même, votre boulot vous distrait. Je ne vous demande pas de ne pas travailler, non, 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 non. Parfois même, l'assemblée vous distrait. Par la maison, on vous distrait. C'est ça que... Parce que le diable, au niveau où vous en êtes, le diable ne viendra jamais vous dire qu'il n'y a pas d'enlèvement. Il sait que vous en savez plus que ça. Pour recevoir cette double portion qu'il a reçue, les distracteurs devaient rester loin. Au verset 7, il nous est dit, ils s'arrêtèrent à distance. Là où Paul dit à Timothée, fuis. Il faut fuir ces choses. Et eux deux s'arrêtèrent. Non, eux, ils sont arrivés à distance. Ils n'ont pas osé poursuivre jusqu'au point où eux deux, ils se sont retrouvés rien qu'eux deux. Ce Saint-Esprit que vous demandez, c'est à Dieu que vous demandez. Ce n'est pas à l'Assemblée. Ce n'est pas l'Assemblée qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui le donne. Quand vous êtes dans l'assemblée, vous le demandez. Quand vous êtes seul avec lui, vous le demandez. Où que ce soit, vous le demandez. Et il dit, si vous êtes élu, si vous criez à lui nuit et jour, il vous donnera ce que vous demandez. Si c'était un homme, vous l'importuneriez. Mais Dieu, on ne l'importune pas. Il veut que nous désirions cela de tout notre cœur. Et marcher sans prêter attention à ces distractions, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a la chair qui agit. Il y a le tempérament qui agit. Il y a la tête qui agit. Tout ce qui vous environne agit de manière à rendre difficile l'accomplissement de cette promesse. À tel point, il y a tellement de distractions aujourd'hui. Une des grandes distractions que Satan a mises au milieu de nous en ce temps-ci, c'est notre GSM. le temps avec lequel les gens passent avec leur GSM. Si vous passiez ce temps-là à demander la promesse, que la promesse du Père s'accomplisse. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. On est venu à l'assemblée, on a fait 30 minutes, on a fait 3 quarts d'heure. Ça n'a pas, ce jour, frère François n'a pas fait longtemps. Ok, on est parti. Et puis on rentre à la maison. Allez, on revient avec le GSM. C'est que vous n'en voulez pas vraiment. Si vous le désiriez vraiment, je vais vous dire une chose, vous savez, en venant, souvent avant de venir, je ne mange pas. Parce que, bon, pas le temps, mais quand si j'ai faim, je mange. Mais souvent, je ne mange pas. Alors, quand le culte est fini, j'ai faim. La première chose que à laquelle je pense quand j'entre dans ma voiture pour rentrer, c'est que je vais manger. J'ai oublié ce que j'ai demandé à l'assemblée, vous savez. À ce moment-là, c'est la faim qui me distrait un peu sur la demande que j'ai faite. Et si on est à deux dans la voiture, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Parfois même, on téléphone. Si vous êtes sur le téléphone, est-ce qu'il y a à manger à la maison? Tu viens de demander quelque chose ici. Tu ne te poses pas la question si tu l'as reçu ou si tu ne l'as pas reçu. Quelqu'un qui va regarder un match de foot et son équipe a bien joué, il a gagné. Quand il sort du stade après le match, il a toujours l'onction du match. Il a toujours l'onction du match. Oh, quel beau match! Il rentre, il peut même s'acheter un hamburger, mais toujours le beau match. S'ils sont à deux ou à trois, comme Cléopas et l'autre, ils ne parlent que du match. Parce qu'ils ont gagné. Ils ont voulu la victoire. Et vous aussi, si vous voulez votre victoire, mais vous devez en parler. Gloire à Dieu. C'est une chose difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'Élisée s'est découragée. On lui dit, la difficulté, c'est continuer à avoir tes yeux fixés sur moi. Quoi qu'il arrive, vous regardez toujours à Christ. C'est une chose extrêmement difficile. Lorsque on touche à votre ego, continuer à regarder à Christ, c'est un problème. Et pourtant, c'est là qu'il faut regarder. Oubliez l'enquiquinement du frère. Oubliez l'enquiquinement du fiston ou de la fistonne ou de je ne sais pas moi, ou du collègue. Vous oubliez. Vous regardez à Christ. Donc, pour recevoir la double portion de l'esprit qui était en Élie, il faut pouvoir voler au-dessus des distractions. Avoir toujours les yeux fixés sur le Christ, sur le Seigneur. C'est dans Hébreux 12, je crois, que c'est écrit ceci. Ah, écoutez, verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Dites amen à ça. La facture qui vous tracasse là. Votre Dieu, c'est celui qui a le poisson, qui a la statère dans la bouche. Il sait où se trouve le poisson. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pour le péché, c'est facile. Or, avoir la double portion de l'esprit, c'est difficile. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, c'est malgré tout, dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, c'est là où on brise les cailloux. Et si vous n'avez pas de sandales, vous risquez de vous blesser. Comme dit le cantique, si les cailloux blessent un peu. Ayant les regards sur Jésus, ne le détournez pas, qui suscite la foi, parce que sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu, et l'amène à la perfection, votre foi. Quand le prophète de l'âge dit, vous devez avoir la foi parfaite, voilà où se trouve la foi parfaite, par Jésus-Christ. C'est lui qui donne la foi parfaite. Il mène votre foi à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix pour nous, méprisé l'ignominie pour nous, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. C'est dire que l'enlèvement, on en parle souvent. On espère tous être enlevés. L'enlèvement, c'est une chose difficile. Ce sera pour les vainqueurs. Ceux qui auront vaincu les distractions. Vous savez que quand on prie et que Dieu répond à nos prières, guérison ou autre chose, délivrance ou quelque chose, vous savez que c'est plus facile d'obtenir une guérison que d'être enlevé. Obtenir la guérison, c'est même très facile. Même un incroyant peut obtenir la guérison. Vous savez ça? Deux Rois, chapitre 5. Guérison miraculeuse. Hein? Quant à l'enlèvement, il faut avoir la foi. Deux Rois, on revient dans Deux Rois. Chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Son maître le considérait beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'était un très bon général, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais malgré sa vaillance, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oui. Bon. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Nous connaissons le témoignage de la fillette. Nous passons, nous allons verser 9, lorsque Naaman va justement au pays de la fille, là où il y a un prophète. Parce qu'elle a dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est ce qu'elle avait dit au verset 3. Alors finalement, il a entendu et le voilà parti en Israël, en Samarie. Le roi d'Israël, il se fâche, il dit, « Mais est-ce que moi je suis Dieu pour guérir ?» Élisée a entendu cela. Élisée dit au roi, mais qu'est-ce que tu as ? Laisse-le venir il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alors, il arrive, on l'envoie chez le prophète, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ça, c'est la fin du verset 8. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, avec toute sa puissance. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Toute sa puissance était incapable de l'aider dans sa lèpre. Élisée lui fit dire, il n'a même pas cherché à le voir. Vous voyez, ce n'est pas nécessaire de voir le prophète. Gloire à Dieu. Certainement, je ne sais pas, je demanderai à Élisée quand j'arriverai là-bas. Pourquoi tu n'as pas voulu le voir? Certainement parce que s'il avait vu Élisée et une fois guéri, il allait se prosterner devant lui. Vous voyez? Alors, Élisée lui dit, il lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Il faut persévérer. Il faut insister. « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Vous imaginez ça? Il entre une première fois dans le Jourdain. On ne lui a pas dit « plonge hein », on lui a dit « lave-toi ». Il se lave une fois, il sort, il est toujours lépreux. Ça ne s'améliore pas. Une deuxième fois, il entre, il se lave, il est toujours lépreux. Mais avant ça, avant d'aller se laver, il n'a pas aimé ce qu'on lui a dit. Verset 11, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, tu n'as rien à te dire. » Tu n'as absolument rien à te dire. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, voilà, je suis le prophète, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, nous on pensait qu'il allait te demander quelque chose d'extrêmement difficile. Hein? Mais il t'a juste demandé d'aller te laver 7 fois dans le Jourdain. Où est le problème? Hein? Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, si t'avais demandé une chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous voyez comment sont les gens. Si t'avais demandé une chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? C'est simple. Lave-toi et tu seras pur. Heureusement qu'il a écouté. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint. Il s'est lavé selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Bon, on peut continuer. Mais quand vous en sortez ainsi, guéri, votre première réaction sera, vous irez témoigner, je suis sauvé. Dieu m'a sauvé, j'étais. Vous savez, c'est un incroyant, Naaman. Mais il va reconnaître une chose. Il va reconnaître ceci. Après avoir proposé des cadeaux à Élisée, verset 17, Élisée a refusé les cadeaux. Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Désormais, je n'offrirai plus à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira, donc il parle de lui, hein, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Je l'aime beaucoup pour m'avoir guéri, mais dis-lui quand même que j'aime encore plus mon chef. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, qui était incapable de me guérir, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Je vais quand même me prosterner dans la maison de Rimon, tout en sachant bien que Rimon t'a été inutile. Alors, il dit, veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Va te prosterner. Élisée lui dit, va en paix. C'est un incroyant. Et lui, ses serviteurs lui disent, ce qui t'a été demandé, c'est une chose facile. Ce n'est pas une chose difficile. Par contre, ce qu'Élisée demandait, ça c'était une chose difficile. Lorsque nous sommes ici avec nos requêtes pour les prier pour des malades, c'est une bonne chose. Mais pensons aussi que nous aspirons à être enlevés. Les guérisons, Dieu merci, Dieu nous en donne. Et comme disait le frère ici, le jour de la réunion de prière, il disait, nos prières, vos prières pour les nôtres, Dieu les a entendues. Il les a entendus, c'est vrai. Maintenant, pour ce qui est de l'accomplissement, ça, ça le regarde. Il va rentrer chez lui et continuer à servir les dieux de son maître tout en offrant des sacrifices à l'Éternel. Puisqu'il a dit, je n'offrirai désormais des sacrifices qu'à l'Éternel. Mais quand mon chef entrera chez son Dieu, j'irai avec lui. Vous n'êtes pas obligé. Il pouvait prendre position là. Il n'a pas fait. Nous ne sommes pas des Naaman. Vous savez, Bartimée, le fils de Timée, quand Dieu l'a, quand le Seigneur l'a guéri de sa cécité, il n'est pas rentré chez lui. Il n'est pas rentré chez lui du tout. Après ce que le Seigneur a fait pour lui, qu'est-ce que Bartimée a fait? Marc 10. Encore une fois, l'histoire du manteau. Je voulais parler de manteau aujourd'hui, mais bon, ça va prendre. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Est-ce qu'il va, il va chez lui? Il va chez Rimon? Non. Et suivit Jésus dans le chemin. Ainsi, c'est pour cela que Jésus lui a donné la vue. Il lui a donné la vue parce qu'il savait qu'il allait le suivre. Si c'est pour vous donner la vue, pour que vous suiviez la mode du monde, il vaut mieux ne pas en avoir. C'est Jésus qui a dit, si votre œil est une occasion de chute, il vaut mieux qu'on vous l'arrache. Amen. Dans Luc 17, on a lu cela dimanche, il y a ces 10 lépreux qui ont été guéris. Mais c'est pour dire que même les ingrats, ils guérissent. Mais un ingrat ne sera pas enlevé. Parce que Paul le dit. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ingrats. Et ainsi de suite. Et puis il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Quoi qu'il y ait une voiture, pose problème. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Les 9 autres, désormais, c'est l'occasion d'aller enfin dans ces endroits d'où on me chassait, ces endroits mal famés, hein, on nous en chassait à cause de la lèpre pour qu'on ne les contamine pas. Aujourd'hui, moi aussi, je peux aller dans la boîte là. Il aurait mieux valu que vous restiez lépreux. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? » Oui, Dieu regarde. Après qu'il vous ait exaucé, il regarde où vous en êtes avec lui. Où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est pas merveilleux ça ? Guérir, ce n'est pas difficile. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Chasser les démons, ils chassent les démons avec le doigt. Mais nous enlever pour garder notre attention à nous sur lui, là se trouve tout le combat. Quand quelque chose de bien vous arrive, voir que c'est Dieu qui vous a béni. Voir la main de Dieu. Et non pas dire, ah, c'est grâce à mon intelligence que j'ai ça. Dieu dit à Israël, hein, quand tu seras de l'Olympie, ne dis pas que c'est grâce à toi. Quand un malheur arrive, les yeux toujours sur le malheur, comme Jérémie dit dans Lamentation, hein, quand donc sa colère s'est abattue sur moi avec toute sa rigueur et toutes ces choses, et il a pleurniché, finalement il a compris que ce n'est pas à ça qu'il doit regarder. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est rabattue au-dedans de moi. Qu'il faut que je pense à ceux qui me donnent, à ceux qui lui donnent quoi encore ? De l'espérance. Que Dieu te bénisse. Amen. Et notre espérance, c'est quoi ? 1 Thessaloniciens 4, il y a la résurrection et l'enlèvement. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions. Que voyez-vous là quand vous le suivez ? Qui voyez-vous ? Si vous voyez frère François, vous êtes fichu. Si vous voyez votre frère ou votre sœur qui est à côté, vous êtes fichu. Mais si vous le voyez, lui, ce que vous demandez là arrivera certainement. C'est ta promesse, Seigneur. Et Élisée l'a reçu. Et il l'a reçu en double portion. Et les miracles ont été faits. Aide-nous, Seigneur, à vaincre toutes les distractions de ce monde. Aide-nous à passer en vainqueur au travers des vallées, ayant toujours nos yeux braqués sur lui, comme dit le cantique, quand je perds de vue l'astre radieux, oh, c'est lui, c'est toi qui ouvres les cieux, afin que nous puissions te voir. Conduis-nous, Seigneur, s'il te plaît. Et pendant que tu nous conduis, que nous puissions boucher nos oreilles à tout ce qui essaye de détourner nos regards de toi, nos oreilles spirituelles. Parce qu'il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lave-nous avec le collyre, oins-nous avec le collyre, oins nos yeux, afin que nous puissions te voir. Partout où tu vas, et même jusqu'à traverser le Jourdain. Telle est notre prière, car nous savons que ce que nous demandons a coûté le calvaire. Notre salut a coûté à Jésus-Christ le calvaire, les souffrances. Ça lui a coûté le châtiment du Dieu vivant, du Père. Le châtiment qui devait tomber sur nous, qui nous était destiné, est tombé sur lui. C'est une affirmation merveilleuse. Aussi, nos cœurs lui sont reconnaissants ce soir. Vraiment, nous le remercions de tout notre cœur d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir tout accompli ce jour-là, afin que mon frère ici présent, ma sœur ici présente, et ceux qui écouteront, ainsi que moi-même, afin que nous soyons sauvés. C'est un acte d'amour. Nous bénissons ton saint nom. Pour ce soir, nous te remettons notre chemin du retour. Que tu nous accompagnes. Que tu nous assistes. Que tu nous gardes sur le chemin et même chez nous, que nous puissions oublier un peu ces distractions et que ta grâce nous environne. Parce que nous n'oublions jamais à garder nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, dans nos maisons, sur le chemin, partout où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.